la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Dans cette chronique « Je lire », eh bien « Je lire » justement, un livre d'Hélène Gaudy, « Un monde sans rivage », un roman publié chez Actes Sud il y a déjà quelques années, en 2019. Et Hélène Gaudy vient à Nantes au nouveau studio théâtre pour le festival Bifurcation à l'invitation d'Anthony Poirodeau et elle fera une lecture sonore et musicale d'une partie de ce livre « Un monde sans rivage » sur une bande sonore réalisée par Xavier Mussa. Ce sera ce samedi au nouveau studio théâtre à partir de 19h. Venez donc l'écouter lire, mais à défaut, voici où j'en suis rendu dans le début, pour le moment, de ce monde sans rivage. Tout à fait étonnant, il s'agit d'un retour sur à l'été 1930, une drôle d'expédition qui a mal tourné en 1897 et dont on retrouve les trois corps des membres de cette expédition qui souhaitaient joindre le pôle Nord en ballon dirigeable. Ils disparaissent et on les retrouve donc lors d'une exceptionnelle fonte des glaces en 1930. Des photographies en attestent, celles qui d'ailleurs figurent sur la couverture où on voit les hommes après l'atterrissage du ballon et une photographie a été prise, un certain nombre de photos ont été retrouvées et, dans la pellicule conservée dans les glaces. Et c'est à partir de ces photos qu'Hélène Gaudy remonte le fil de cette histoire étonnante. En voici un extrait d'un chapitre baptisé « Traversée » sur la page 55 de ce livre qui en compte quelques 300. Mai 1897. Cela ressemble de loin à une longue virée nocturne s'étendant sur l'amorce timide des matins. Ce qui reste, c'est cette impression de lent enfoncement, alors qu'il s'achemine vers une lumière grandissante, celle des jours qui n'ont pas de fin. L'été polaire durera plus de 3 mois. 3 mois de clarté, nuit et jour, dont ils devront profiter avant que la pièce ne s'inverse, ne montre sa face obscure pour les mois qui suivront. Ils partent séparément. Frankel et André ensemble, puis Strindberg en compagnie de Swedenborg, l'homme qui leur servira de doublure au cas où l'un d'entre eux serait disqualifié. Bercés par le bruit régulier du train, Frankel et André s'assoupissent sur leur siège, voyageurs anonymes ou presque. On leur a offert quelques fleurs, des anémones, des œillets, et ils ne savent qu'en faire. Elles les encombrent, tandis qu'ils regardent par la vitre défiler les lacs, les forêts. Ils les laissent dépérir sur la laine de leur costume sombre. La lumière baisse, la nuit s'annonce. Chaque étape du voyage leur rappelle le même voyage accompli l'année précédente. Chaque silence ravive les cris de la foule qui était massée pour les fêter dans chaque port, chaque gare. Ces femmes, ces hommes endimanchés, ces petits-enfants aux bras chargés de fleurs, cette fillette qui avait offert à André un rosier dont il devait jeter un bouton au-dessus du pôle, et dont les roses minuscules avaient fini par faner en attendant les vents. Puisqu'il ne se décidait pas à souffler dans le bon sens, il avait fallu patienter 1 an avant de repartir, refaire les valises, conditionner une nouvelle fois son corps et son esprit pour être prêt, quoi qu'il arrive. Dans leur bagage, il y a des cravates à mi-donner, des gants délicats. Ils pensent au départ, mais aussi au retour, à être présentables pour la foule qui bientôt les acclamera de nouveau. Entre les deux, l'aventure tiendra en quelques jours, un bref épisode où il faudra serrer les dents, avoir froid, endurer sans se plaindre, mais rien qu'une parenthèse dans l'attente du triomphe à venir. André s'endort, il ronfle, sa bouche s'entr'ouvre, il fait tiède dans ce train, il fait moite, le soleil du printemps traîne dans les rideaux lourds, imprègne les vestons et fait sentir les fleurs. Frankel regarde l'homme qu'il va devoir suivre sans regret, sans question, avec lequel il va s'envoler au-dessus des glaces. Il est bien difficile d'y croire dans ce compartiment confortable, ce long crépuscule roux. André, le dos bien droit sur son siège, a fière allure, même dans le sommeil. Il ne se relâche jamais, on dirait. Il a tout prévu, tout préparé, choisi avec soin les membres de son expédition, à son image, en plus jeune, moins expérimenté, des ingénieurs, des hommes d'intérieur plus habitués aux bureaux de bois lisses qu'aux étendues sauvages, des gars solides, sans trop de crainte ni d'exigence, motivés par l'exploit sans être avides de gloire, des hommes sensés qui sauront prendre de la hauteur sans jamais pour autant lui marcher sur les pieds. Knut Frankel est tout juste diplômé de l'Institut royal de technologie de Stockholm. Nils Strindberg, qui n'a que 24 ans, y enseigne en tant qu'assistant. Au premier, on confiera les relevés météorologiques. Du second, on utilisera les connaissances scientifiques, astronomie, physique, mathématiques et surtout, photographie. Salomon Auguste André a de l'ambition et de la clairvoyance. La tentative d'atteindre le pôle Nord en ballon, en plus d'être inédite, a l'avantage de l'élégance. Plus de cortèges fourbus traversant à ski les immensités blanches, plus de chiens hurlants, de navires poussifs. Ils n'auront même pas besoin de poser un pied sur cette terre inhospitalière. Ce qu'André promet, c'est de la survoler et d'y lancer une bouée qui deviendra la marque de l'humanité entière massée derrière son aérostat, rêvant avec lui de conquêtes indolores. À ce moment-là, ils sont nombreux à s'alarmer de son peu de sérieux supposé. Ses connaissances de l'Arctique sont vagues, ses prévisions paraissent fantaisistes, mais l'époque est à l'enthousiasme. Financiers, scientifiques s'engouffrent dans les brèches, sans cesse ouvertes dans la marche ronronnante du monde. On veut conquérir, connaître, cartographier. Et puis André est persuasif, passionné, il inspire confiance avec sa stature, sa moustache, son verbe haut et calme, le flot de détails dont il noie ses auditeurs. C'est un chant qu'on écoute, prend pour argent comptant. Cet homme-là, aux belles phrases, aux costumes distingués, accompagné de deux gaillards qui, comme lui, ne sont pas des aventuriers à la petite semaine, mais des êtres civilisés, dont le manque d'expérience du terrain sera compensé par l'étendue rassurante de leurs connaissances, cet homme-là va défricher par les airs, en douceur. Dans la tiédeur de son bureau d'ingénieur à l'Office des brevets de Stockholm, André a longtemps fomenté des parcours, des plans, des montgolfières. À hauteur d'homme, on n'a jamais accès qu'aux imperfections, aux disgracieux gros plans, la peinture écaillée des boiseries de la fenêtre, le désordre de la table de travail, les papiers entassés, un reste d'eau de pluie en bas entre les pavés. Du ciel, il ne verrait plus rien de ces fâcheux détails. Tout soudain prendrait sens, comme un message dont il faut s'éloigner pour le lire en entier. André s'est alors payé son propre ballon, le Svi. Ses voyages ont d'abord été brefs, venteux, mal maîtrisés, des vols de proximité autour de Stockholm et de Göteborg. De sa nacelle, il a vu les villes se loger miroitantes dans son œil étonné, puis s'enfouir profond dans les forêts, et les myriades de lumières se noyer dans les arbres. Cet incroyable panorama de l'ouest de la Suède, lac, forêt, si rarement rompu par les trouées blondes des champs en été, a viré au bleu, au noir, à mesure qu'il s'élevait, paysage redoublé en miroir qui semblait ne finir jamais. Mais ses plans de vol n'étaient pas encore tout à fait au point. Le moindre brouillard, le moindre nuage lui faisait perdre le sens, la direction. De lac en lac, de forêt en forêt, André luttait contre l'impression de revivre sans cesse le même instant. Si bien qu'à l'approche de l'île d'Holland, apercevant un phare et entendant le choc du ressac contre la rive, il a pris la mer pour un nouveau lac. À force de s'élever, tout est devenu flou, identique. En plein ciel, il s'est perdu. Il lui a fallu un autre ballon, plus fiable, plus performant. Son nom, le pôle Nord, n'étant pas à son goût assez conquérant, il lui a préféré Örnen, aigle en suédois. Peut-être connaissait-il l'histoire de l'alchimiste John Damian qui, au XVIe siècle, avait fait le pari fou de gagner la France par les airs depuis le château de Stirling en Écosse, avec des ailes en plumes d'aigle accrochées au bras, et qui justifia son échec par le fait que quelques plumes de poule s'étaient malencontreusement glissées parmi elles. Ce volatile qui ne vole pas, cet oiseau collé à la terre, aurait saboté le vol de l'aigle. Un reste de modestie, un souvenir domestique aurait suffi à le faire chuter. Aucune plume de poule ne viendra gâcher le vol d'André. Comme l'aigle, son ballon saura jeter un œil perçant sur les confins du monde, les voir avec cette précision, cette clairvoyance que prête le ciel, et entamer leur possession. Frankel regarde la moustache fournie d'André, qui cache presque entièrement ses lèvres. Détaille son nez, fort, ses yeux biffés au coin des paupières qui donnent à son visage sévère quelque chose de malicieux, comme s'il ne croyait pas tout à fait à son propre sérieux. Tout semble là, déjà, dans ce visage. Sa volonté inébranlable, sa foi en les vertus claires et carrées de la science, mais aussi sa folie tranquille, aveugle à l'échec, comme la façon presque enfantine qu'il aura de profiter jusqu'à la fin de ce qui peut paraître dérisoire. Un bon repas, une plaisanterie, la forme arrondie d'une île. Frankel n'arrive pas à dormir. À 27 ans, il en paraît 35. Fossette au menton, petite bouche raide et fine à l'arc aussi net que le V taillé sur son front par l'implantation nette de ses cheveux, l'aigle lui irait bien comme nom, à lui aussi. Juste avant de partir pour le Nord, il s'est rendu à Paris en compagnie de Swedenborg, la doublure. Tout en suivant la construction du ballon, confié à un certain Henri Lachambre, ils ont tenté d'anticiper les gestes à venir, comme s'ils préparaient un spectacle, sans rien savoir du théâtre où ils allaient se produire, du public auquel ils auraient droit, un spectacle comme dans les cauchemars où l'on se retrouve sur scène sans connaître une seule ligne de la pièce qu'on va jouer. À Paris, ils ont découvert un autre climat, une autre qualité de l'air, d'autres visages aussi, les Parisiens, les Parisiennes surtout, dont leur logeuse aux petits soins pour eux qui, pourtant, n'étaient pas encore des aventuriers. L'aura qui les entourait était celle de l'exploit à venir, plus brillante peut-être que celle de l'exploit accompli. Ils n'avaient rien fait, mais ils feraient, c'est sûr, déjà auréolés de cette neige qui couvrirait leurs épaules, entourés de ce paysage qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont visité les ateliers, appris les spécificités techniques surtout, ils ont flâné, longé la Seine, au front, l'ombre des hauts arbres bordant les quais de pierre, ils ont profité de la nuit, des cafés, des ruelles. Paris, pour eux, c'était déjà le sud, une terre latine aux antipodes de celle où ils allaient échouer, une bifurcation tiède et bienvenue. Une fois qu'on est sorti de ses habitudes, il est moins douloureux d'envisager un nouvel arrachement. Paris, c'était la première escale, l'antichambre trompeuse de ce qui allait suivre. C'était un extrait court de Un monde sans rivage, roman d'Hélène Gaudy publié chez Actes Sud en 2019, quelques 300 pages de cette expédition folle en ballon jusqu'au pôle Nord par trois ingénieurs et scientifiques suédois. Hélène Gaudy sera présente ce samedi pour le festival Bifurcation. Elle fait une lecture musicale de quelques fragments de ce monde sans rivage à 19h. Soyez au rendez-vous, c'est au nouveau Studio Théâtre.